Voilà, alors, il y avait 5 points, j'en ai fait 4. Ça m'arrange bien parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur les derniers points. Mais sur le deuxième point, j'insisterai. Donc le deuxième point, c'est la conversion pastorale. Donc vous le retrouverez dedans. Et pastoral en conversion, c'est marqué ici, numéro 25. Donc numéro 25, c'est le numéro que je vous ai cité en partie tout à l'heure, où il disait, je souligne que ce que je vais exprimer ici a valeur de programme. Voilà. Et donc c'est le numéro sur la pastorale en conversion, ou la conversion pastorale. Alors, l'expression conversion pastorale, vous savez d'où ça vient, certainement. Alors, on la trouve, semble-t-il, une première fois en 1992, dans un document justement pour l'Amérique latine et l'Amérique centrale, et on la retrouve notamment dans le document dont le cardinal Bergoglio était une cheville ouvrière, de document d'Aparecida, donc c'est au Brésil, mais donc ils s'étaient tous retrouvés justement et ils parlaient pas mal d'évangélisation. Et dans ce document, il est parlé de conversion pastorale et mise en lien avec la nouvelle évangélisation. Alors, je sais pas, quand on parle de conversion, je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit. Souvent on parle, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce qui me viendrait plus spontanément à l'esprit, c'est une conversion d'ordre moral. Je fais des choses mal, il faut que je change un peu de... je mens, il faut que j'arrête de mentir et puis il faut que je dise la vérité, ou je ne sais pas, je suis désagréable avec les gens, mais il faut que je me convertisse et que je devienne plus gentil. Ou alors, je prie pas, mais il faudrait peut-être que je me bouge un peu et que, voilà, que la prière ait vraiment sa place dans ma vie. Je sais pas. Pour moi, la conversion, instinctivement, c'est plutôt à ça que ça me fait penser, plus une conversion dans le moral. Je dois changer dans mon attitude morale. Mais là, justement, quand on parle de conversion pastorale, c'est... Alors, il y a des implications morales, certainement, mais c'est pas ce qui est premier. C'est plutôt changer notre manière de faire. C'est pas d'avoir notre manière d'être ou notre manière d'agir dans le sens moral, mais changer notre manière de faire. Je pense que c'est déjà un point important. Alors, je m'écarte un tout petit peu là, mais dans notre vie, souvent... alors, la conversion morale est importante, mais quelquefois, il y a tout un processus psychologique aussi qu'on a à mettre en place qui n'est pas strictement dans le moral. Et je pense que c'est important de ne pas toujours moraliser trop vite les choses. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais je prends un exemple. On veut pardonner. C'est très bien de vouloir pardonner. Mais derrière le... Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous mettre en route. Après, il ne suffit pas de claquer des doigts pour pardonner comme ça. Après, il y a aussi... On a une épaisseur, on a... Voilà, et ça se fait pas. J'ai été marqué pour se distinguer entre conversion et puis voir ce qui. Pour pas trop moraliser les choses. Je pense à une jeune fille à une certaine époque qui avait tendance à moraliser un peu les choses. Elle a rencontré un prêtre, mais qui l'a aidé justement à voir des changements aussi d'ordre psychologique qu'elle avait à faire. Et ça l'a beaucoup aidé, justement, à vraiment cheminer. Alors, elle avait aussi une conversion morale à un certain niveau à faire. Mais il n'y avait pas que ça. Et en nous, il n'y a pas seulement l'aspect moral à changer. Quelquefois, on voudrait bien, mais voilà, ça ne vient pas aussi vite qu'on voudrait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, je ne vais pas trop développer ce thème-là. Mais là, il s'agit d'une conversion pastorale. Et pour cette conversion que je m'y retrouve, Oui, si, c'est bien ça. C'est d'abord changer une manière de faire dans notre manière d'évangéliser, de rejoindre les gens. Avant de dire on est méchant ou pas méchant, c'est pas ça la question. Ou dire les prêtres, ils sont... parce que conversion pastorale, ça concerne un peu les pasteurs quand même. Mais avant de... quand le pape parle de ça, c'est pas de dire que les prêtres sont mauvais, mais peut-être qu'ils s'y prennent mal. C'est autre chose de dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils s'y prennent mal. Hein. Alors, je vais vous prendre un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Moïse. Alors, donc Moïse, vous le trouvez au début de l'Exode, déjà. Vous vous rappelez comment ça se passe, les débuts de Moïse? Oula, pardon. Il y a un peu de temps, je ne sais pas. Il est dans la corbeille, dans les roseaux, tout ça. Après, c'est la fille de Pharaon qui l'éduque, etc. Et puis après, il va voir ses frères, parce qu'il reste lié viscéralement quand même à ça. Et puis, il voit un contremaître des Égyptiens qui frappe, un des Hébreux. Alors, il dit, c'est pas normal ça, donc il le tue, et puis il l'enfouit dans le sable. Et puis, le lendemain, il revient, et puis c'est deux Hébreux cette fois-ci qui se battent, mais alors il veut faire la loi un peu. Et il y en a un qui dit, mais veux-tu faire de moi ce que tu as fait de l'Égyptien hier? Alors il se dit, il pensait que personne ne l'avait vu, mais en fait, il doit se sauver dans le désert. Alors ça, c'est une première étape, on pourrait dire, dans la vie de Moïse. Il veut faire les choses par lui-même. Il est témoin d'une injustice, il veut réagir. C'est pas mal en soi, mais il devra attendre quand même que ce soit Dieu qui lui donne sa mission. Hein, c'est... une première conversion pastorale, on pourrait dire, dans ce sens-là, c'est de recevoir sa mission de Dieu. Plutôt que il faisait avec toute sa bonne volonté pour mettre fin à une injustice, mais c'était pas forcément les moyens que Dieu attendait de lui, c'est pas forcément ce qu'il attendait de lui. Et du coup, après, justement, ça sera l'épisode du buisson ardent, et puis à ce moment-là, à la fois il fait une rencontre de Dieu, vraiment à ce moment-là, et à la fois il est envoyé par Dieu. Donc on pourrait dire, ça c'est un premier moment qui fait qu'il voulait être pasteur à la force du poignet, on pourrait dire, au point de départ, mais là c'est vraiment Dieu qui fait qu'il soit pasteur. Mais après, alors ça sera un virage assez important dans la vie de Moïse. Alors on est au chapitre 18 à l'Exode. Et le conseil vient d'un païen, hein, c'est le beau-père de Moïse, Jéthro, qui lui dit, voilà le conseil que lui dit Jéthro. Comment accomplis-tu ici la parole pour le peuple? Pourquoi es-tu assis seul alors que le peuple se tient debout devant toi du matin jusqu'au soir? Moïse dit à son beau-père, en effet, le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont une parole, ils viennent à moi, je juge entre un homme et son prochain, et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, la manière dont tu accomplis la parole n'est pas bonne. Tu t'épuiseras d'épuisement, toi et ce peuple à cause de toi. Car la parole est trop pesante pour toi, tu ne pourras pas l'accomplir seul. Alors, là c'est une conversion pastorale, il va changer sa manière de faire, donc il lui dit, choisis des gens, des chefs de 1000, 100, mais répartis un peu la tâche. Les choses les plus importantes, c'est toi qui vas les régler. Mais il apprend à déléguer un petit peu, à ne pas porter les choses tout seul. Mais ça, c'est un deuxième moment, on pourrait dire, d'une conversion pastorale dans sa manière de guider le peuple, hein, d'être pasteur. Il va changer un peu sa manière de faire. Un troisième, je prendrai quatre épisodes dans la vie de Moïse, et un troisième épisode, c'est un peu plus loin, c'est dans le livre des Nombres. Alors, c'est au chapitre 11. On va y arriver. Alors, ils sont au désert, le peuple se plaint, commencer à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Ah, quel souvenir, le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. Maintenant, nous dépérissons privés de tout. Nos yeux ne voient plus que de la manne. Voilà. Et alors, à ce moment-là, Moïse en a un peu... on a marre. Il est... avant, Jéthro lui disait, tu vas t'épuiser. Alors là, Moïse... Alors, je ne sais pas s'il avait mis complètement le conseil de Jéthro en œuvre. Mais là, je ne puis à moi seul porter tout ce veuve, c'est trop lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt. Et alors, quelle est la réponse de Dieu? Il lui dit, une nouvelle fois, il délègue, mais cette fois-ci, ce n'est pas le beau-père qui lui dit, c'est le bon Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui mettra une part de l'esprit de Moïse sur les autres 70 anciens. Et vous vous rappelez l'épisode, il y en a deux qui ne sont pas là au moment, mais du coup, ils prophétisent au milieu du temple, du campement, etc. Donc, là, c'est un deuxième moment de conversion pastorale, où il y a une part de l'esprit de Moïse qui est mise sur d'autres personnes, et il n'est pas tout seul à guider le peuple. Et quatrième moment dans la vie de Moïse, alors là, ça nous conduit un peu plus loin, c'est... alors, c'est dans l'Exode au chapitre 17, c'est le combat à Réphidim. Donc il y a les Amalécites, et à ce moment-là on voit que Moïse ne sera pas en première ligne, il envoie Josué combattre et lui reste sur la montagne. Alors c'est un passage assez connu, mais est-ce qu'il prie seul? Non, même pour la vie pour son intercession, il a besoin d'être aidé. Donc il y a Aaron et Hur qui lui soutiennent les bras. Quand il baisse, il y en a qui gagnent. Enfin, c'est les adversaires qui gagnent. Quand il les lève, c'est les autres qui... Voilà. Et finalement, donc il s'assied, puis deux, ils lui tiennent les bras. Et puis c'est comme ça que le peuple va vaincre. Mais donc c'est une manière encore un peu différente d'être pasteur. À ce moment-là, c'est plutôt en intercédant. C'est pas lui qui est en première ligne. Et en plus, pour intercéder, il a besoin de l'aide des autres. Il peut pas. Il est. Alors, voilà. Alors, on pourrait. Ça peut illustrer dans notre esprit. Il y a bien des manières où on peut. On ne sait pas forcément comment s'y prendre, mais Dieu peut nous éclairer pour changer notre manière de faire. Hein, pour dire, c'est pas d'abord un. Là, on voit bien pour Moïse, c'est pas d'abord un changement dans le moral. Alors après, il y a des implications morales. Peut-être qu'il doit apprendre à ne pas compter que sur lui-même, mais sur les autres. Et donc il peut y avoir des implications morales, mais ce n'est pas d'abord ça. Ce qui est d'abord, c'est de changer de manière de faire. Et je pense que pour les prêtres aussi, pour les pasteurs, les évêques, c'est le pape François parle de cette conversion pastorale qui n'est pas en premier, même s'il y a des implications morales, mais qui n'est pas d'ordre moral d'abord. Donc ça, c'était numéro 25, 26, disons. Et alors, au numéro 27, je vais sauter quand même quelques petites choses, c'est jusque 3 heures, c'est ça? Et au numéro 27, voilà ce que dit le pape François. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose. Donc ça illumine cette intention fondamentale du choix missionnaire. Ça nous fait revoir les choses un peu différemment. Afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel. Donc on voit bien que l'objectif, c'est l'évangélisation. Et après, du coup, il faut adapter le reste pour que ça suive. Il faut que l'intendance derrière, ça suive. Alors les horaires, si on a plus de monde, je prends un exemple bête, à tel horaire qu'à tel autre, ben on change l'horaire, parce que le but, c'est d'être disponible pour les gens, c'est de rejoindre les gens. Si on va faire de l'évangélisation, tant qu'à faire, on va un jour où il y a du monde, plutôt qu'un jour où il n'y a pas un chat. Mais aussi le langage, alors on adapte notre langage pour que les gens comprennent. Parce que Si on dit des tas de belles choses, mais que les gens n'y comprennent rien, ben, il vaut mieux en dire moins, mais que les gens comprennent. Voilà. Alors donc, mais on voit l'intention, voilà. L'objectif qui nous lance, vraiment, c'est l'évangélisation, et après, l'intendance, on doit s'adapter justement à cet objectif. Hein. Comme dans une offre, c'est pas la même chose qu'une entreprise, mais voilà, on a un cap, et puis après, bon, on essaie de... dans notre vie, c'est pareil, on essaie, selon le cap qu'on poursuit, ben voilà, on prend pas les mêmes moyens. Et donc, il parle notamment de la réforme des structures. Alors, souvent, il a la dent un peu dure contre les structures, que je vous cite, alors c'est peut-être pas là. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis, mais... Ah, si. Pour les structures, il insiste pour dire, bon, les structures, c'est qu'un moyen. C'est pas un but, les structures. Le but, c'est l'évangélisation. Donc, il ne faut pas se perdre notre temps quelquefois dans les structures. Si on passe notre temps dans les structures et qu'on n'a plus de temps pour l'extérieur, pour aller voir les gens... Ça fait penser, alors même si l'Église n'est pas une ONG, mais quelquefois dans le camembert, avec le pourcentage des dons qui vont aux gens, on est content quand même dans notre argent, tout n'aille pas dans les structures de l'ONG, mais que ça aille aux gens pour lesquels est faite la structure. Sinon, on dit, c'est. Mais quelque part, dans notre temps, dans notre énergie et tout ça, si le but c'est d'évangéliser, il ne faut pas que. L'essentiel de notre énergie, ce soit pour faire tourner la boutique, mais de pas rejoindre les gens. Sinon, voilà. Voilà un peu ce que dit, à ma manière à moi, mais ce que dit le pape. Il a des expressions choc, comme souvent. Je vous lis un passage. Alors ça, c'était aux évêques à Rio qui disait. L'Église est institution, mais quand elle s'érige en centre, elle tombe dans le fonctionnalisme. Et peu à peu, elle se transforme en une ONG. L'Église prétend alors avoir sa propre lumière et cesse d'être ce mysterium lunae, c'est la lune qui reflète l'image du soleil, qui reflète la lumière du soleil. Elle devient de plus en plus autoréférentielle et sa nécessité d'être missionnaire s'affaiblit. D'institution, elle se transforme en œuvre. Elle cesse d'être épouse et finit par être administratrice. De servante, elle se transforme en contrôleuse. Là, du coup, il insiste pour, voilà, on est là pour rejoindre les gens, pas d'abord pour faire marcher les structures internes à l'Église. Alors, bon. Ben, après, dans l'Église, on fait ce qu'on peut. Mais quand on y est sensible, quand il y a un certain nombre de personnes qui sont sensibles, on peut faire avancer un petit peu les choses quand même. Il y a aussi, dans ce même document, ce même discours aux évêques du Brésil, le pape a insisté sur le fait quelquefois il y avait une complicité malsaine entre les... Alors, c'est moins le cas en France qu'en Amérique latine, où il y a beaucoup de cléricalisme, je trouve, en Argentine, c'est beaucoup plus marqué que... Pour des petites choses, un détail, je vous dis, mais qui me marquait. Quand j'arrive ici dans une paroisse, ben je m'adapte aux chants qui sont choisis et tout ça. Je dis, ben, vous chantez. Voilà, moi, j'arrive pour dépanner. Mais Mais c'est très difficile en Argentine. On arrive. Ah non, père, c'est vous qui décidez, tout ça. Bon, oui, mais moi, si je ne connais pas les chants, vous connaissez tout ça, ça ne sera pas une réussite. Mais il y a une forme de cléricalisme qui est très, très forte. Alors là, mais on peut l'avoir aussi un peu chez nous, dans le sens où il dit, en Amérique, il parle surtout pour l'Amérique latine, là, il y a quelquefois du côté des prêtres une manière de s'imposer et puis d'être un peu. Voilà. Et puis du côté des fidèles, il y a une manière de trouver la situation finalement un peu confortable. On se laisse faire et puis on ne réagit pas trop. Mais quelquefois, il faut réagir quand même. Le pape dit sinon, ça ne marche pas. Alors, il y a manière et manière pour réagir. Il ne s'agit pas de casser la baraque. Et, voilà, mais on peut quand même. Je pense que c'est bien quand on peut faire une proposition aussi, quand on peut. Quand on en est conscient, qu'on voit un petit peu. Après, c'est réfléchir qu'est-ce qui pourrait aider, peut-être dans une paroisse, mais je le vois même ici en communauté, c'est pas toujours très facile de faire évoluer les choses, parce que le plus facile, c'est d'aller sur les rails où on a toujours fait comme ça. Et alors, de faire le point de temps en temps, ne serait-ce que proposer des bilans, combien de personnes sont concernées par telle chose, ben, s'il n'y a pas grand monde, si finalement il y a toute une usine à gaz pour un fruit un peu modeste, ben, peut-être qu'il faut investir notre énergie un peu autrement. Alors après, ça se passe aussi dans, je pense que si on a des liens plus cordiaux, etc., avec le prêtre et les choses peuvent passer plus facilement. Bon, après, c'est lui qui ultimement décide dans sa paroisse. Donc, on peut pas. Il y a des choses qu'on peut regretter. Et puis, voilà. Mais s'il y a un certain nombre de personnes qui le proposent intelligemment sans s'opposer de façon frontale, mais voilà, en cherchant finalement le bien de l'Église, et c'est pas un projet plus qu'un autre que je veux pousser, c'est. Finalement, en proposant peut-être une initiative où il pourra toucher du doigt que finalement, ça vaut la peine de s'investir dans ce domaine-là. Et du coup, l'initiative, petit à petit, elle peut prendre plus de place. Ah oui, bon. D'accord. Mais alors, du coup, ceci dit, le pape n'est pas contre les structures, justement, parce qu'après, il énumère toutes les structures. Il énumère la paroisse, d'abord. Et je trouve que c'est alors, qu'est-ce qu'il dit de la paroisse ? Voilà. Bon, je vais le lire là-dedans. Il parle de la paroisse. Même si elle n'est pas l'unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer, conversion pastorale, et de s'adapter constamment, elle continuera à être l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité, de l'adoration et de la célébration. J'aime bien ce qu'il dit de la paroisse dans le sens où peut-être qu'on n'a pas toujours conscience que la paroisse, c'est. Ça reste pour l'Église quand même l'unité de base, on pourrait dire. Et pourquoi ? Alors, habituellement, les paroisses sont territoriales. Il peut y avoir, dans le code de droit canonique, il y a d'autres types de paroisses, mettons pour les militaires, ou voilà. Donc, mais il y a un diocèse aux armées qui n'est pas territorial, mais qui. Voilà. Mais habituellement, c'est plus territorial. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que voilà, ça concerne tous les gens qui habitent là. Alors, il y a des jeunes, des vieux, des gens en bonne santé, des jeunes, des malades, des gens qui sont plutôt des athées, il y a toute la panoplie, grosso modo, sur la paroisse, un peu différente d'une paroisse à une autre, bien sûr, mais... Et alors, la paroisse est pour tous les habitants. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez beau. C'est complètement différent d'une communauté religieuse comme ici. Ici, les gens viennent, bon, comme vous le faites aujourd'hui. Alors, et ils viennent pour différentes raisons, mais aussi parce que, bon, peut-être qu'il y a le charisme d'une communauté qui les attire. Voilà. Mais la paroisse, c'est autre chose. Et c'est quelque chose de très beau, c'est le fait que, voilà, on prend tous les gens tels qu'ils sont, qui habitent là, et puis on essaie de... C'est Jésus qui veut rejoindre les gens dans ce territoire-là. Donc, c'est pour ça que les derniers papes ont toujours insisté sur la validité de la paroisse, on pourrait dire comme ça, et de ne pas trop dire, bon, chacun va où il veut, et puis voilà. Alors... Après, dans le concret, c'est quelquefois un peu compliqué, notamment si on a des grands ados, il vaut peut-être mieux aller à la messe, l'endroit où ils ont envie d'y retourner, qu'un endroit où ils ne voudront plus jamais y aller. Donc, enfin, après, je ne rentre pas dans les détails, après, il y a un peu de nuance à mettre, mais sur le fondement d'avoir une paroisse avant même de s'occuper des gens qui sont très très loin, voilà, les gens qui sont ici, comment les rejoindre ? Alors, il y avait cette enquête de voisinage qui a été faite dans le diocèse en un certain nombre de paroisses. C'est aussi cette idée d'aller voir les gens qui sont là. Alors, bien sûr, on peut avoir à cœur les missions au loin, mais déjà que le Seigneur veut rejoindre les gens dans ce lieu. Donc, il parle de... la paroisse n'est pas une structure caduque. Voilà. Après, il parle d'une autre... les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes d'association. Alors, il y a différents... On voit que les mouvements, c'est... Alors, on peut... Bien sûr, on fait à la fois partie d'une paroisse, on peut faire partie d'un mouvement. Alors, ça peut être l'Action catholique, ça peut être les équipes Notre-Dame, ça peut être des tas de choses diverses et variées. Mais là aussi, alors... L'idéal, c'est de vivre en bonne union avec l'un et l'autre. On peut tout à fait être à la fois bien engagé dans un mouvement et puis tout à fait présent dans sa paroisse. Et l'important, c'est que ça ne s'exclut pas. Alors, qu'est-ce que... Voilà une citation du Concile Vatican II. Sur la paroisse encore. La paroisse offre un exemple remarquable d'apostolat communautaire, car elle rassemble dans l'unité toutes les diversités humaines qui se trouvent en elle et les insère dans l'universalité de l'Église. Voilà, alors après, donc, il y a tous les mouvements ecclésiaux, les communautés, etc. Jean-Paul II avait invité à la Pentecôte 98 toutes les nouvelles communautés, les mouvements, justement pour parce que c'est important qu'on travaille main dans la main, on pourrait dire, dans l'Église, et que, alors, il peut y avoir des tiraillements, mais que ces tiraillements soient bénéfiques au final, parce que souvent quand même on doit reconnaître que beaucoup de communautés nouvelles au niveau des initiatives apostoliques ont était plus innovante que des paroisses. Alors tant mieux si une émulation et que finalement, mais là où ce serait pas bon, c'est si c'est de la concurrence et que voilà. Et Benoît XVI aussi avait invité en 2006 tous les nouveaux mouvements ecclésiaux, les nouvelles communautés. Donc et dans cette même perspective pour voilà. Pour bien travailler en bonne intelligence. Donc, paroisse, institution, autre institution, mouvement, communauté, etc. Autre niveau, c'est les diocèses. Alors, l'appellation église particulière, je ne sais pas si pour vous ça signifie vraiment quelque chose ou pas. Ça a un sens très précis dans le langage de l'église. Une église particulière, c'est un diocèse autour d'un évêque. C'est-à-dire qu'une paroisse ne se suffit pas à elle-même. Quelque part, alors le diocèse ne suffit pas à elle-même dans le sens où il ne se déclare pas pape pour ce... Mais il y a... Alors il faudrait que je vous lise quelques... Voilà. Dans Christus Dominus. Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de ses prêtres, il en soit le pasteur. Donc l'Église universelle ne résulte pas de l'addition des églises particulières, mais... Et l'église particulière, un diocèse n'est pas une partie de l'église universelle comme on pourrait diviser un pays en départements, même si de fait on divise en diocèse, mais c'est par la présence de l'évêque qui peut administrer tous les sacrements, c'est vraiment l'église universelle qui est présente à Soissons, qui est présente à Beauvais, qui est présente à Reims, qui est présente à Amiens. Voilà, c'est... l'Église universelle, ce n'est pas une addition. Et c'est pour ça que l'évêque, donc, est bien sûr évêque pour son diocèse, mais en ayant aussi toujours ce souci, normalement, de chaque évêque, de ce lien avec l'Église universelle. C'est l'évêque en premier qui doit avoir ce souci de l'Église universelle. Alors après, donc, il parle de l'Église particulière. Après, il parle plus spécifiquement de l'évêque. Et là, il insiste sur les qualités de l'évêque, notamment pour travailler à la communion de son diocèse. Alors, encore faut-il se laisser conduire après. Alors après, il parle aussi du pape. Et notamment, il en a été question, notamment au moment du synode, sur la primauté de l'évêque de Rome et puis la collégialité. Alors, si ça vous concerne peut-être moins, alors je vais pas le développer. Et pour cette conversion pastorale, voilà, le dernier paragraphe. Je vais m'arrêter un petit peu. La pastorale, d'un point de vue missionnaire, exige d'abandonner le confortable critère du pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Alors ça vous concerne aussi, ça ne concerne pas que les prêtres, vous pouvez... Les prêtres, quelquefois, ils ne demandent pas mieux, mais ils n'ont pas forcément les idées. Alors, c'est au numéro 33. Hein. J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Après, il n'y a pas deux prêtres pareils, hein, mais il y en a qui ont plus d'imagination que d'autres. Mais l'Esprit Saint ne repose pas que sur les prêtres. Hein. Vous avez été baptisés, la plupart d'entre vous, je pense, sont confirmés. C'est aussi de la créativité. Vous êtes quelquefois beaucoup plus créatifs que les prêtres. Vous n'êtes pas des wagons avec une seule locomotive qui tire la paroisse. Moi, je pense que vous avez quelque chose vraiment à donner. C'est un peu dans ce sens-là. vous gardez à l'esprit peut-être cette image de Moïse avec les 70 anciens. Voilà. Ouais, ils ont reçu une part de l'esprit aussi pour le seconder dans sa mission. Et d'autant plus qu'il y a des domaines dans lesquels vous êtes peut-être 100 fois plus à l'aise que votre curé. S'il faut le monde d'Internet, etc., si vous voulez être présent, vous êtes peut-être bien plus doué que votre curé qui est à 80 ans, un peu plus de mal à s'y mettre. Quoi. Je crois que quelquefois, même, il n'y a pas besoin d'avoir 80 ans pour avoir du mal à s'y mettre. Bon, et puis il y en a. Alors ça, c'était la deuxième partie, plus sur le changement pastoral. Mais alors, c'est vrai que ça concerne avant tout les pasteurs, mais vous êtes quand même concernés parce que vous pouvez faire bouger vos pasteurs. Ah ben, je peux vous raconter une chose. Ça vous intéresse pas ma vie familiale aussi. j'aime beaucoup, en particulier avec un de mes beaux-frères, on discute beaucoup de l'apostolat. Alors il est assez impliqué à Lyon, il avait fait le Merci Marie, donc c'est pour ça que c'est le visage de notre vierge qui est donc il a. Et du coup j'aime bien discuter avec lui parce qu'il a plein d'idées que je n'ai pas. Et du coup pour les week-ends famille, c'est avec lui qu'on les a lancés. En y pensant, en discutant ensemble, en voyant ce qui pourrait être bien. Voilà, alors lui c'est un laïc, mais c'est grâce à lui j'ai pu faire un certain nombre de choses dont j'aurais pas eu forcément l'idée, ou voilà, après, bon, j'ai fait ma part, mais sans l'idée qui vient. Alors, donc, vous pouvez faire la même chose. Après, chacun selon ses dons. Hein, les dons sont divers. Mais soyez créatifs. Voilà. Alors, ça, c'était la deuxième partie sur le... Donc, première, c'était une église en sortie, en partance. Deuxième, c'est la conversion pastorale, la pastorale en conversion. Troisième, c'est à partir du cœur de l'Évangile. Alors ça, je l'ai déjà un peu évoqué au mois de septembre, mais vous n'étiez pas toutes là, alors je peux revenir très rapidement. C'est un passage, ça n'hésitez pas à lire, là je fais que survoler, donc à le lire, vous en imprégnez. Personnellement, c'est une des parties qui m'a le plus éclairé quand j'ai lu cette lettre, parce que... Il y a des choses quelquefois qu'on pressent, mais quand il y a quelqu'un qui a des mots pour l'exprimer, c'est quand même mieux. Et du coup, on dit, mais oui, c'est évident. On ne l'aurait peut-être pas trouvé tout seul, mais après coup, on se dit, mais c'est évident. Alors, il parle beaucoup de la communication dans cette troisième partie. Comment communiquer le message? Et alors, il détache plusieurs points sur la communication du message pour nous aider pour nous rendre attentifs à quelques écueils. Première chose, ça rejoint le premier point sur sortir, etc. C'est se mettre à la place de l'autre. Quand je veux communiquer le message, il faut que j'essaie de penser un petit peu à ce que l'autre entend dans mes paroles, comprendre mes paroles. Sinon, on parlera des heures ensemble, mais on se rejoindra pas. Et alors, la première chose, c'est si lui connaît absolument rien de l'Église, je vais pas lui parler de choses qui sont complètement marginales dans l'Église ou dans la doctrine. Pardon ? Le cœur, c'est sur l'amour de Dieu. Après, il faut voir comment... ce qu'on disait un peu du kérigme tout à l'heure, c'est d'abord, qu'est-ce qui me fait vivre ? Qu'est-ce qui me donne envie de continuer à suivre Jésus ? C'est ça, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui fait qu'avec Jésus ou sans Jésus, pour moi, la vie n'est pas la même? C'est ça qu'on doit communiquer. À la conclusion de cette partie, il le dira bien. Voilà, comment il le dit? Ah oui. Alors, bon, c'est pas exactement ce passage que je voulais, mais si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Alors, il y a trois éléments. L'amitié de Jésus-Christ, une communauté de foi qui les accueille, un horizon de sens et de vie. Et je pense que si vraiment c'est ce que je vis dans ma relation avec Dieu, c'est ça que je dois transmettre d'abord. Témoigner, c'est de ça dont je dois témoigner auprès des autres. Après, mariage de prêtre, pas mariage de prêtre, ça n'a pas grande importance. C'est une importance relative, mais ce n'est pas au cœur de la foi. C'est ça que je veux dire. C'est pas le... Et du coup, le titre de cette partie, c'est à partir du cœur de l'évangile. Pas se perdre dans des choses qui sont... Pas se battre pour des choses qui ne sont pas essentielles. Alors, il y a des lieux où il faut peut-être se battre pour ça, mais entre évêques, bon, peut-être qu'ils doivent en discuter de ça, mais à la première personne qu'on rencontre dans la rue, ça n'a pas grand intérêt. Alors, première chose, c'est à partir du cœur de l'évangile. Après, c'est se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. Autre point, c'est avoir une hiérarchie dans les vérités de l'Église. Il y a une hiérarchie. Tout n'est pas à croire avec la même. Il ne s'agit pas de barrer des choses du credo, c'est pas ça, mais croire en la Trinité, en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est plus important que de croire au purgatoire. Même si, bien sûr, que le purgatoire, c'est. Je renie pas du tout, mais quand même, c'est quand même plus central de croire en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit que de croire en Satan qu'il existe. On en fait l'expérience, hélas. Mais c'est pas central. C'est pas. Je vais pas d'abord parler du démon. Quelquefois, on peut. C'est pas défendu d'en parler de temps à autre, mais il vaut mieux que je parle du bon Dieu que du démon, quoi. Alors. Après, aussi dans ce qui concerne la morale, pour des gens qui ne mettent pas les pieds à l'église, leur parler du préservatif ou tout ça, ça n'a aucun intérêt déjà. Enfin, c'est pas le cœur de la morale de l'église, c'est pas le préservatif. C'est, bon, même si ça a son importance, mais dans un cadre où... Après, j'aime bien aussi ce qu'il dit dans les proportions. Si on parle tout le temps, mettons, du démon, et qu'on parle rarement du bon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou s'il y a des sujets qu'on aborde tout le temps, et puis que Dieu, on en parle très peu, ou de l'amour de Dieu, ou de la résurrection, on en parle très peu, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il faut que la fréquence avec laquelle on... Alors, s'il s'adresse notamment aux prêtres, mais ça peut être vrai aussi dans les discours à nous aussi. Si on est obsédé que par les questions de sexualité, on parle tout le temps de ça, c'est pas ça qui est le plus important, quand même. Heureusement. Il y a d'autres choses bien plus importantes dans notre foi. Et quelquefois, la fréquence avec laquelle on parle des choses, ça veut dire que ça nous occupe aussi davantage l'esprit, peut-être. Hein, qu'est-ce qu'il dit encore? Il y a cette expression, ne pas perdre le parfum de l'évangile. Dans ce qu'a dit le pape François, je trouve que à certains moments on retrouve vraiment l'évangile. Je le dis sans doute mal, hein, ce que j'essaie de dire, mais il y a des passages d'évangile qui, Voilà, qu'on connaît par cœur, mais il le redit avec une telle force que voilà, on sent que c'est vrai que Jésus voulait vraiment rejoindre tous les gens, quelle que soit leur situation. Ça, c'est clair dans l'Évangile, que Jésus n'est pas venu d'abord pour les bien portants, mais pour les malades, pour ceux qui avaient du mal dans leur vie. Voilà, ça, c'est absolument clair dans l'Évangile. Alors, ça fait du bien de le réentendre. Et dans les accents qu'il met, il nous incite justement à ne pas avoir peur de rencontrer les gens qui ont sans doute pas une vie irréprochable du point de vue moral, mais voilà, c'est pour ces gens-là aussi, et peut-être d'abord pour ces gens-là que Jésus est venu. Alors, dans ce point, à partir du cœur de l'Évangile, c'est un point très intéressant, n'hésitez pas à le relire ou... Oui. Alors, c'est les numéros qui vont de 34 à 39. Après, la quatrième partie, donc je reprends l'église en sortie, la conversion pastorale à partir du cœur de l'Évangile. Et la quatrième partie, c'est la mission qui s'incarne dans les limites humaines. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans ? Un premier point qu'il développe, c'est d'accueillir la diversité dans l'Église. Quelque chose qui peut être difficile parce qu'on peut avoir tendance à... un peu comme à l'armée, enfin l'image qu'on en a quelquefois, c'est tous marchent dans le même sens, et puis voilà, dans l'Église c'est pas ça, hein. Il y a des sensibilités assez diverses, il y a des... Bon, le voir aussi comme une forme de richesse. Et on voit bien, alors dans sa manière de faire, par exemple au synode, il laisse la place, la parole un peu à toutes les sensibilités que... en pensant aussi que le bon Dieu à travers ça peut nous éclairer et que aucune sensibilité ne possède la plénitude de la lumière. Mais voilà, alors il reprend une citation de saint Thomas même. Saint Thomas d'Aquin soulignait que la multiplicité, la distinction proviennent de l'intention du premier agent de Dieu, celui qui veut que ce qui manque à une chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par une autre. Parce qu'une seule créature ne saurait suffire à représenter sa bonté comme il convient. Donc ça veut dire que, voilà, même si mon mouvement est très beau, c'est que Dieu est plus grand que mon mouvement, Dieu est plus grand que ma paroisse, Dieu est plus grand que... Voilà. Et que du coup, qu'il y a un mouvement différent, c'est bien, qu'il n'y ait pas que les serviteurs de Jésus et de Marie, en plus ils sont petits, hein. Mais qu'il y ait d'autres communautés, c'est bien, parce que voilà, nous, il y a peut-être un visage de Dieu qu'on peut exprimer, mais c'est tout à fait partiel, et du coup, ça nous remet dans l'humilité, dans mon mouvement. Voilà, il convient à certaines personnes, mais il ne convient pas à tout le monde. Ce n'est pas le mouvement universel. Et donc, c'est toujours important. Et là, pour revenir un peu à la paroisse, c'est vrai que quand on peut quand même, quand chaque sensibilité peut trouver son compte, alors ce n'est pas toujours simple dans la pratique, mais voilà, parce que chacun, on a quelque chose à donner. Alors, donc... C'est un premier point qui donne dans ce quatrième sur la mission qui s'incarne dans les limites humaines. Il revient sur la question du langage en disant que notre langage, bon, il ne faut pas qu'il soit trop technique, sinon les gens n'y comprendront rien. Il faut... L'expérience de la Pentecôte est assez évocatrice. Hein, chacun les entend dans sa propre langue. Alors, quelque part, c'est ce qui devrait advenir aussi quand on s'adresse aux gens, on les rejoint dans leur langue. Alors, oui, toujours les limites, dans ce paragraphe des limites, dit ben, la foi conserve toujours un aspect de croix. Elle conserve quelque obscurité qui n'enlève pas la fermeté à son adhésion. Voilà, on ne peut pas brader la foi. À un certain moment, il y a des choses, ben, on doit accepter le mystère, des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas encore, qu'on comprendra quand on sera au ciel, mais pour l'instant, c'est... Il y a des choses qui se comprennent et s'apprécient seulement à partir de cette adhésion qui est sœur de l'amour. Et du coup, d'abord cette adhésion, et puis à partir de cette adhésion, je crois pour comprendre. J'attends pas de tout comprendre pour croire, sinon je croirai jamais. Mais à partir du moment où je fais confiance à Dieu, alors il y a au point de départ, il y a des raisons de croire, mais après, à un certain moment, ben, il faut accepter de se remettre entre les mains de Dieu et de ne pas être la mesure de Dieu, mais d'accepter que Dieu me dépasse. Et à ce moment-là, il y a des choses qui s'éclairent à partir du moment où je fais ce pas dans la confiance et dans la foi. Toujours dans les limites humaines, avoir bien conscience qu'on a des usages bon, qui ne sont pas intemporels. Je parle de l'habit religieux, bon, moi j'aime bien, mais en même temps c'est un habit du Moyen-Âge, hein, ça pourrait être autrement. Je veux dire, c'est pas au cœur de la foi, quoi. Où il y a des usages qu'on a dans nos paroisses, mais on pourrait changer. Alors, c'est vrai qu'au moment du concile, on a changé beaucoup d'usages, alors quelquefois il y a des usages qui transmettait aussi toute une spiritualité. Du coup, on s'est retrouvé tout nu d'un coup parce qu'on avait... Mais alors, donc il ne s'agit pas d'enlever tous les usages, on en a besoin, mais de relativiser ces usages. C'est pas au cœur de l'Évangile que les prêtres et un clergyman, moi j'aime bien, mais bon, ça pourrait être autrement. C'est pas... Saint-Pierre n'avait pas le clergyman, donc... Donc ça c'est accessoire d'une certaine manière, donc pas se crisper sur des usages qui sont somme toute bon, qui peuvent dépendre d'une époque, d'une culture. Nous on est en Occident, je sais pas, en Inde où ils le vivent autrement, donc quelquefois on se crispe beaucoup sur des petits usages, mais que ça fait partie des limites humaines, hein. Aussi toujours dans les limites humaines, bon là, la manière dont les gens peuvent vivre, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est typique du pape François. Sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. Alors ça, il s'adresse aux prêtres. Au fait, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture. J'espère qu'on ne vous a pas trop torturé. Voilà. Mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Un stimulant. Un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir affronté d'importantes difficultés. La consolation est l'aiguillon de l'amour salvifique de Dieu qui œuvre mystérieusement en toute personne, au-delà de ses défauts et de ses chutes, doivent rejoindre chacun. Ça, c'est typique du pape François, hein, cette manière de dire, voilà, il ne faut pas casser les gens, il y a des gens... bon. Ils font ce qu'ils peuvent et peut-être leur contexte de vie ne les aide pas. Ils sont dans des grandes souffrances, alors on ne va pas forcément leur demander l'impossible. Voilà. Donc il est temps que je m'arrête. Voilà. Et la dernière partie, c'était une mère. Le cinquième point, c'était une mère au cœur ouvert. Alors il partait d'ouvrir les portes de l'Église autant que c'est possible. Mais pas seulement les portes de l'Église, c'est aussi ouvrir nos cœurs, surtout pour que les autres puissent y trouver une place, et en particulier les pauvres.